France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Martine Moni, Stéphane Poitvin, U2, Diego Hack Lopez et Olivier Dehay. En ce 24 janvier 2022, nous allons commémorer le centenaire de la mort d'un immense musicien, figure tutélaire de la direction d'orchestre, c'est Arthur Nikisch, qui fut à la fin de sa vie directeur musical du Gewandhaus de Leipzig et de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, un chef auprès de qui Wilhelm Furtwängler disait avoir tout appris, un chef qui fut en son domaine le grand rival de Gustav Mahler, un chef admiré par ses contemporains comme Tchaïkovski, dont Nikisch fut le grand champion de la 5e symphonie, un musicien qui joua comme violoniste sous la direction de Richard Wagner et qui dirigea la création de la 7e symphonie de Bruckner. Ce sont des enregistrements modernes que nous écouterons aujourd'hui avec des chefs comme Karajan, Ozawa, Barenboim ou encore Furtwängler. Mais voici pour commencer une archive qui porte bien ses 109 années. Mais on peut faire abstraction de ces craquements de 1913 pour écouter quelques minutes l'une des plus célèbres partitions de l'histoire de la musique, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de Berlin, dirigé par Arthur Nikisch.
Thank you.
Enregistrement historique de 1913, l'orchestre philharmonique de Berlin était dirigé par Arthur Nikisch dans la 5e symphonie de Beethoven dont vous écoutiez le premier mouvement, Allegro con brio. Mais cette symphonie a été intégralement enregistrée en 1913. C'est la première intégrale qui a été faite par ce qui était considéré à l'époque et encore aujourd'hui comme le meilleur orchestre du monde, même si ces classements n'ont pas vraiment de sens. En tout cas, Arthur Nikisch était une figure, je disais, tutélaire de la direction d'orchestre qui, à cette époque, avait en main deux des plus belles phalanges du monde, l'orchestre philharmonique de Berlin et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Berlin, où il avait succédé à Hans von Bülow, qui était absolument flamboyant. Arthur Nikisch, au contraire, avait imposé une direction d'orchestre beaucoup plus sobre, qui va marquer des générations, je le disais, dans son livre Pour Wilhelm, la veuve du chef d'orchestre Wilhelm von Wengler, Elisabeth von Wengler écrit, il affirmait qu'il avait tout appris d'Arthur Nikisch. Bien sûr, l'immense personnalité de Hans Pitzner, son maître à Strasbourg, avait beaucoup compté, mais sur un autre plan. À ses yeux, parmi les chefs d'orchestre, nul autre qu'Arthur Nikisch n'était digne de considération. De lui, j'ai appris le son, la façon d'obtenir le son, disait von Wengler, qui va lui succéder donc à sa mort en 1922, il y a un siècle jour pour jour. Arthur Nikisch, qui était né en 1855 dans une ville de Hongrie et qui était formé d'abord comme violoniste virtuose. Il sera même premier violon de l'opéra de Vienne, jouant sous la direction de compositeurs comme Johannes Brahms, Franz Liszt, Giuseppe Verdi ou encore Richard Wagner. D'ailleurs, il a fait partie, Arthur Nikisch, de la grande aventure de 1876, l'inauguration de Bayreuth avec le Ring et puis avec la 9e symphonie de Beethoven, qui est un passage obligé de Bayreuth. Sous la direction donc de Wagner, Nikisch avait joué cette partition. Et bien voici justement cet orchestre du festival de Bayreuth, le 29 juillet 1951, dirigé justement par Wilhelm von Wengler dans le deuxième mouvement Molto Vivace de cet opus 125 de Beethoven.
Thank you.
1951, Wilhelm Furtwängler, songeant peut-être à Arthur Nikisch diriger l'orchestre du Festival de Bayreuth dans la 9e symphonie de Beethoven, dont c'était le Molto Vivace, deuxième mouvement de cette partition, que Nikisch a donc joué en tant que violoniste dans cet orchestre de Bayreuth sous la direction de Richard Wagner lui-même.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voici maintenant un des géants de cette fin du 19e siècle, début 20e siècle, et qui a été un rival d'Arthur Nikisch. Il s'agit de Gustav Mahler, qui a longtemps été connu comme chef d'orchestre, avant d'être reconnu tardivement, et même très tardivement, comme compositeur. Gustav Mahler, qui a été en rivalité avec Nikisch, notamment à Leipzig, pour diriger le Gewandhaus de Leipzig. Seulement, Mahler était conscient du génie de son rival. Il l'écrit lui-même, souvent j'éprouve une grande joie à l'entendre diriger, et je puis assister à une représentation conduite par Nikisch avec la même tranquillité que si je la dirigeais moi-même. Alors, parenthèse que fait Henri-Louis de Lagrange dans sa biographie, Mahler étant très avare de compliments, à part peut-être pour Hans von Bülow ou comme Mengelberg, on peut peser le poids de cette phrase avec la même tranquillité que si je la dirigeais moi-même. Pourtant, les profondeurs lui sont interdites comme les sommets. D'ailleurs, moi aussi, je n'arrive que rarement à les faire entrevoir au public. La plupart du temps, je dois me contenter de prévenir les imperfections trop évidentes et de laisser tout aller à droite et à gauche. Avec lui, personnellement, je n'ai jamais aucun contact. Il se montre toujours froid et distant à mon égard, par amour propre ou par méfiance, je n'en sais trop rien. Il suffit, nous nous côtoyons en silence, les témoignages d'admiration ne me manquent pas d'ailleurs, et parfois ils me parviennent d'un certain côté qui m'est particulièrement agréable. Donc Nikisch et Mahler sont en froid, et petit à petit, eh bien je cite encore Mahler, au point où en sont les choses, nous nous sommes beaucoup rapprochés et nous nous comportons maintenant en bons camarades. À tel point que Nikisch, qui va obtenir le poste à Leipzig en 1895, tout comme le poste à Berlin en cette année 95, Nikisch va diriger la musique de Gustav Mahler. C'est même lui qui va diriger pour la première fois le deuxième mouvement de sa troisième symphonie. C'est une partition qui a été conçue en 1895-96. L'intégralité sera dirigée par Mahler bien plus tard en 1902, mais dès 1893, le 9 novembre, l'orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Nikisch proposait le deuxième mouvement qu'on appelait alors Blumenstück, morceau de fleurs. C'est l'orchestre symphonique de Boston que je vous propose d'entendre sous la direction de Seiji Ozawa. Et la raison pour laquelle on écoute cet orchestre américain, eh bien c'est parce que Arthur Nikisch a eu l'occasion de le diriger pendant 2 années. Thank you. Blumenstück, morceau de fleurs, voilà comment s'appelait à l'origine ce morceau, ce deuxième mouvement de la troisième symphonie de Gustav Mahler, ici interprété par l'Orchestre Symphonique de Boston, dirigé par Seiji Ozawa. Ce mouvement a donc été créé sous la direction d'Arthur Nikisch à Berlin, qui va le reprendre avec un grand succès au Gewandhaus de Leipzig, qui va aider le compositeur Gustav Mahler. Voilà une aide volontaire de Arthur Nikisch. Il va même aider Gustav Mahler de façon involontaire, en tombant malade à Leipzig, ce qui va permettre à Gustav Mahler de le remplacer au pied levé et de le remplacer dans pas n'importe quelle partition, mais dans le Ring de Richard Wagner, et de se faire reconnaître comme un des grands chefs de son temps. Gustav Mahler a saisi sa chance au vol, et même ses détracteurs vont le saluer en tant qu'immense chef d'orchestre, ce qui va lui ouvrir plus tard les portes de l'opéra de Vienne, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à Arthur Nikisch avec un de ses grands admirateurs, c'est Piotr Ilitch Tchaïkovski, qui assiste à des représentations wagnériennes à Leipzig sous la direction de Nikisch. Sa direction n'a rien de commun avec celle célèbre et tout à fait inimitable de Hans von Bülow, son prédécesseur à Berlin. Si animée, si agitée, si efficace que soit celle-ci, celle de Nikisch est d'un calme admirable, sans aucun geste superflu, et par cela même d'une énergie, d'une puissance, d'une maîtrise stupéfiante. Et Tchaïkovski poursuit, Nikisch ne dirige pas, il a l'air de se livrer à une sorte de rite ou de magie mystérieuse. On ne le remarque presque pas, il n'a jamais l'air de se donner la moindre peine, et pourtant, on sent bien que l'immense effectif orchestral s'assouplit comme un instrument entre les mains d'un maître admiré, et qu'il se soumet de son plein gré au commandement de son chef. Et Nikisch va populariser la cinquième symphonie de Tchaïkovski. Il va contribuer à faire connaître cette partition, notamment en Allemagne. Partition qu'on va écouter avec cet orchestre philharmonique de Berlin, dont Nikisch a été directeur musical, suivi de Furtwängler, suivi de Herbert von Karajan. C'est lui qu'on va entendre diriger la valse de la cinquième symphonie. Karajan, qui un jour en a montré des archives visuelles muettes de Nikisch dirigeant. Et Karajan a été absolument fasciné, non pas par les bras, mais par les yeux de Nikisch, la puissance visuelle qu'il a peut-être lui-même retrouvée. Herbert von Karajan était à la tête de l'orchestre philharmonique de Berlin dans cette valse de la 5e symphonie de Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voici maintenant une des œuvres phares du répertoire germanique symphonique. C'est la 7e symphonie que Anton Bruckner a conçue au moment de la mort de Richard Wagner. Il avait pressenti cette mort dans son adagio. Et puis finalement, ayant terminé cette partition, il avait appris la mort de son dieu Wagner. Alors il avait légèrement modifié la fin pour en faire une sorte de requiem profane. Et je vous propose de retrouver le successeur d'Arthur Nikisch à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'est Wilhelm Furtwängler. En 1942, dans un enregistrement entaché, bien sûr, de la noirceur politique que l'on sait, mais d'un niveau musical absolument merveilleux, un enregistrement réédité par plusieurs maisons d'édition, notamment celle-ci, Praga Digitals, l'adagio de la 7e de Bruckner, par Furtwängler et l'Orchestre Philharmonique de Berlin sur France Musique. 7 avril 1942, Wilhelm Furtwängler dirigeait l'Orchestre philharmonique de Berlin dans la 7e symphonie d'Anton Bruckner, dont nous écoutions l'Adagio, deuxième mouvement. Furtwängler, qui fut le successeur d'Arthur Nikisch à sa mort en 1922, et à la tête de la Philharmonie de Berlin, et à la tête du Gewandhaus de Leipzig. Et c'est en 1884 que Nikisch, à Leipzig, avait dirigé la création de cette 7e de Bruckner, dont l'Adagio sera repris en 1896, à la mort du compositeur.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Arthur Nikisch, disparu il y a 100 ans, a été considéré comme le pionnier de la direction d'orchestre moderne. Il a dirigé des œuvres de son temps, comme cette symphonie de Bruckner. Il a dirigé la création de partitions comme la 7e de Bruckner, comme l'ouverture, la Schauspiel ouverture de Korngold, comme les variations et fugues sur un thème de Hiller de Max Reger. Ferruccio Busoni lui a dédié son poème symphonique opus 32A en 1893. Nous écouterons à la fin de cette émission un extrait de la 3e symphonie de Scriabine, là encore dirigée par Nikisch et à Paris. Mais voici une partition d'un Suédois qui s'appelle Wilhelm Stenhammar, qui avait confié à l'Orchestre philharmonique de Berlin la création de son ouverture Excelsior. C'était le 28 décembre 1896. L'Orchestre philharmonique de Berlin était en voyage, en tournée à Copenhague pour jouer cette partition inspirée du Faust de Goethe. Excelsior de Wilhelm Stenhammar par l'Orchestre symphonique de Göteborg dirigé par Neeme Järvi.
Thank you.
Excelsior. Voilà le titre de cette partition de Wilhelm Stahnemar, dont la création en 1896 avait été assurée par Arthur Nikisch. Ici, c'était l'orchestre symphonique de Göteborg, dirigé par Neeme Järvi. Et nous allons terminer cette émission avec une partition, elle aussi, créée par Arthur Nikisch, non pas à Leipzig, non pas à Berlin, mais à Paris, en 1905, à la tête de l'orchestre Colonne. C'est la très inattendue troisième symphonie d'Alexander Scriabine, que voici par l'orchestre de Paris, dirigé par un petit-fils spirituel d'Arthur Nikisch, Daniel Barenboim. l'âge de 11 ans, il avait reçu la bénédiction de Wilhelm Furtwängler, lui-même disciple d'Arthur Nikisch. C'était Daniel Barenboim qui dirigeait l'orchestre de Paris dans cette troisième symphonie de Scriabine, dont nous écoutions le final, symphonie créée en 1905 à Paris par Arthur Nikisch. Bonjour Lionel Esparza.
Bonjour François-Xavier Chomchak, une grande chanteuse au programme de vos arabesques demain.
Absolument. Karine Deshaies, pour trois émissions, va revenir sur sa très belle discographie de la musique baroque à la Mélodie française, avec demain les années 2000, en compagnie de Patricia Petitbon, Nathalie Dossé ou encore Hervé Niquet.
Eh bien merci, à demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.